BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière. C'est les pros des cryptos et c'est tous les vendredis. Bienvenue à tous. Nos talents, cette semaine, ils vont nous accompagner. Claire Balva, en plateau, directrice générale de LADAN. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Et Owen Simonin, alias Asher, avec un H. Au début, il est à la tête de Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des grandes actus de cette nouvelle semaine crypto. Mais d'abord, il est là lui aussi. Ça faisait longtemps, tiens, Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Salut Guillaume, bonjour.
Vous avez manqué, voilà, Vincent, on vous le dit. Le cours du Bitcoin, en plus on est ensemble en jour férié, attention, hein, on est
exactement.
Là, 8 mai, donc c'est tout à votre honneur aussi Vincent, et merci à chacun de nos pros des cryptos. Le cours du Bitcoin, il est en hausse depuis la fin du mois de février dernier de 20% quand même. Où en est-on sur le plan cyclique et technique pour le Bitcoin, Vincent?
Ouais, alors si on fait point depuis le 28 février dernier, point de départ des opérations militaires contre l'Iran, Bitcoin a globalement surperformé l'ensemble des actifs risqués. Alors c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'entre-temps, le marché actions, certains indices boursiers du marché actions ont fait de nouveaux records historiques. Le marché actions US aussi, mais c'est très particulier. C'est porté par la tech, par les semi-conducteurs, par l'IA. Donc, globalement, le comportement de Bitcoin est plutôt très bon. Depuis deux mois, effectivement, il est en hausse de 20%. Cette reprise de 20%, ce qu'on sert lorsqu'on regarde les données, c'est essentiellement un phénomène de short squeeze. Beaucoup de traders à levier qui avaient shorté Bitcoin fin février, début mars, en pensant qu'il serait le véhicule idéal pour profiter de la situation géopolitique, ils ont été pris à revers. Alors, votre question, elle est double, l'aspect cyclique et l'aspect technique. L'aspect cyclique, c'est la question la plus difficile, puisque vous avez deux écoles qui s'opposent, celle dite du bear market rally, en fait, le rebond qu'on fait depuis quelques semaines n'est qu'un rebond qui ne va pas durer parce que le marché baissier va continuer, vous savez, le fameux cycle de 4 ans, un point bas qui est attendu plus tard dans l'année. Et puis, l'autre école qui commence un peu à s'imposer, celle du cycle étendu qui considère qu'on est toujours dans une phase haussière qui a démarré en 2022 et qui se serait relancée. Donc la question, elle est cyclique, la réponse, elle sera technique, c'est-à-dire qu'il y a une frontière en termes de prix entre ces deux scénarios. Le marché n'est pas très loin, d'ailleurs il a commencé à la tester, elle est quelque part entre 83 000 et 87 000 dollars. J'explique rapidement pourquoi. 83 000 dollars, c'est la moyenne mobile à 200 jours, très suivie par les institutionnels, et 87 000 dollars, c'est le point mort annuel. Donc en dessous, Bitcoin est en baisse depuis le début de l'année et au-dessus, Bitcoin est en hausse depuis le début de l'année. Donc voilà, pour vous répondre clairement, tant qu'on est sous ces 83-87 000 dollars, c'est plutôt un bear market rally qui n'est pas censé durer. On refranchit ce seuil, ben, va falloir admettre que le marché baissier cyclique est définitivement derrière nous avec le bottom, du coup, qui serait final. Vous savez, le bottom qui avait été établi à 60 000 dollars. En février, voilà la situation.
Oui, dans quel camp, de quel côté basculera d'un point de vue technique le marché des cryptos? Ça dépendra aussi de certains déclencheurs, des déclencheurs parfois fondamentaux aussi qui peuvent, ces déclencheurs, créer des accélérations techniques. Quels pourraient être les déclencheurs fondamentaux des prochaines semaines?
Alors, moi, j'en vois un qui est important, vous en parlez souvent sur votre antenne, c'est le fameux Clarity Act. Alors, il faut bien le resituer, mais simplement donc pour les auditeurs et les spectateurs, c'est la nouvelle réglementation crypto US qui donne enfin un cadre juridique à Bitcoin, aux altcoins, au stablecoin, même à la DeFi, à la finance décentralisée, qui pour moi est l'application la plus concrète des alts. En réalité, effectivement, c'est quelque chose qui peut apporter du soutien parce qu'on attend un vote au Sénat US d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Je ne sais pas si c'est ça qui va permettre de trancher immédiatement sur l'aspect cyclique, mais ma conviction forte est que ce Clarity Act sera le socle, la fondation du prochain bull market qui, lui, avec une bonne probabilité, aura lieu sur les années 2027-2028.
On l'espère. Merci beaucoup. Vincent Gann avec
merci
nous
vous
aujourd'hui, trader, analyste technique indépendant. Morgan Stanley va peut-être mettre bientôt des bitcoins à son bilan. C'est au cœur de ces grands sujets qu'on va aborder ensemble. Oui, Morgan Stanley, la grande banque américaine, envisage d'inscrire bitcoin à son bilan malgré les obstacles réglementaires, un nouveau signe de l'hybridation de la finance. Alors qu'à l'inverse, Strategy se dit prêt à vendre des bitcoins, vendre une partie de ces bitcoins pour financer une distribution de dividendes aux actionnaires. Alors ça, c'est surprenant. On va essayer de vous expliquer. L'hybridation, en tout cas, avance entre ces deux marchés traditionnels et crypto. Au point que on bat des records, hein, des records de tokenisation dans la finance traditionnelle. On a des chiffres précis à vous apporter, figurez-vous. Nos pros nous les dévoileront, ces quelques chiffres de la tokenisation de la finance. Et puis en matière de minage, c'est pas perdu. Hein, c'est pas perdu si vous êtes un particulier, un individuel. Vous vous dites que c'est compliqué, beaucoup plus qu'il y a 10 ans par exemple, de faire du minage. Oui, mais c'est pas complètement perdu d'avance. Certains particuliers y arrivent encore. Alors évidemment, ça reste exceptionnel. Mais un particulier vient de miner seul depuis chez lui un bloc Bitcoin. Ça lui a rapporté là, depuis chez lui, tranquille, dans son canapé, 240 000 dollars. Easy, on va vous expliquer comment il a fait. C'est votre machine à condenser l'essentiel des pros des cryptos. Bienvenue à tous. Bienvenue donc à tous les deux. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour.
Et Owen Simonin, qui a voulu rester là-haut dans la Moselle parce que pour une fois, il y fait beau. Il va quand même pas perdre un rayon de soleil. fait beau, hein, vous confirmez, Owen?
Oui.
Ah ben voilà. Alors le Nasdaq qui remonte, il remonte très fort hein, sur les marchés traditionnels. On est sur un vrai rallye cette semaine. Les marchés américains ont battu de nouveaux records. Le Nasdaq est en train de signer l'indice des technologies américaines, une sixième semaine de hausse d'affilée. Est-ce que le Bitcoin en profite? Est-ce qu'on a une recorrélation là du Bitcoin au Nasdaq? Tant que le Nasdaq monte, finalement c'est positif. Est-ce que le Bitcoin en profite, Claire?
Pas vraiment. En fait, sur le très long terme, ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure des années, la corrélation entre Bitcoin et les actions a plutôt tendance à augmenter. Avant 2020, par exemple, le niveau de corrélation entre Bitcoin et les actions, c'était autour de zéro. C'est Morningstar qui nous dit ça. Et puis, en 2026, on est plutôt à 0,5. Donc, de manière générale, on voit plutôt une augmentation. En revanche, là, à très court terme, ce qu'on voit depuis avril 2026, c'est plutôt une baisse brutale du niveau de corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq, par exemple. Et donc, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais effectivement, c'est dans des moments comme ça où on se met à douter, finalement, du fait que Bitcoin soit corrélé à la bourse, ce qu'on dit régulièrement sur ce plateau. On voit bien que dans des moments de situation, de tension monétaire, géopolitique, Bitcoin peut se comporter très différemment des actions technologiques avec un niveau de corrélation à la bourse qui va plutôt revenir au niveau zéro, voire même avoir une corrélation négative.
Oui, alors dans le Nasdaq, il y a une société crypto bien connue, Coinbase. Ils ont publié leurs résultats hier soir, Coinbase. On analysera la publication, la réaction à l'ouverture de Wall Street de Coinbase. Ce sera dans moins d'une demi-heure à l'ouverture de Wall Street et au coup d'envoi de BFM Bourse et chaque après-midi, bien sûr, BFM Bourse. Et aussi, côté à Wall Street, stratégie, bien sûr. Si le Bitcoin était une entreprise, ce serait laquelle? Ce serait sans doute stratégie. C'est l'entreprise qui a fait le plus grand pari dans le Bitcoin au point de l'intégrer dans sa trésorerie. Eh bien, stratégie aussi a publié ses résultats. La première réserve mondiale en Bitcoin qui souffre hein, quand même. Ils ont publié leurs résultats T1. Owen, ça donne quoi?
Ça donne une perte de 12,5 milliards de dollars. Alors attention, hein, c'est une perte non réalisée. Ils sont dans l'obligation de communiquer dessus parce que c'est une norme comptable. Cette norme comptable fait qu'ils doivent communiquer sur leur plus ou moins value et en l'occurrence sur le premier trimestre, en regardant la valorisation des bitcoins qu'ils détiennent, ils enregistrent une perte non réalisée de 12,5 milliards. Donc c'est une perte comptable, c'est pas vraiment ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant et ce qui a secoué la toile, c'est trois choses. Premièrement, c'est la plus grosse entreprise qui détient du bitcoin au monde. Ils en détiennent plus que tous les ETF de BlackRock réunis, par exemple. En l'occurrence, ils ont plus de 818 000 bitcoins. Deuxième chose, ils ont continué d'acheter pendant ce premier trimestre 2026 quand Bitcoin a perdu de la valeur, là où la plupart des entreprises du monde qui en accumulent malgré tout ont arrêté par manque de trésorerie. Et le troisième point qui secoue la toile, c'est le fait qu'ils viennent d'annoncer, alors que depuis plus de 5 ans, Michael Saylor, son fondateur, disait qu'il ne vendrait jamais un seul bitcoin, qu'ils allaient peut-être commencer à vendre. Et pour le coup, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Premièrement, parce que beaucoup de fonds sont short sur MicroStrategy et se disent que le jour où ils seraient obligés de vendre, le plus gros acheteur du monde deviendrait peut-être le plus gros vendeur et ainsi, il ferait baisser lui-même le prix de Bitcoin, créant de la panique, de la pression vendeuse et baissant ainsi la valeur de son propre stock, créant ainsi un cercle vicieux qui allait le tourner et qui allait le pousser à mordre la poussière et à perdre de la valeur. Et c'est pour ça que de nombreux fonds se sont ligués contre MicroStrategy. Michael Saylor prend la parole en disant que son but, c'est d'inoculer le marché, de le vacciner et de lui montrer qu'ils peuvent vendre sans que ce soit la fin du monde. Et la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, on peut faire une sélection spécifique des actifs que l'on vend. Michael Saylor ne va pas vendre les bitcoins au prix moyen d'acquisition ou encore les bitcoins qu'il a achetés le moins cher dans le but de faire de la plus-value. Il veut vendre les bitcoins qu'il a achetés au plus haut, c'est-à-dire vers 120 000 dollars. Non seulement ça fait baisser le prix d'acquisition moyen de tous les bitcoins qui restent, mais en plus de ça, ça va créer quelque chose d'intéressant, ça va lui permettre de faire une optimisation fiscale puisqu'il va pouvoir, entre guillemets, enregistrer une vraie moins-value et ils estiment qu'il y a jusqu'à 2 milliards de dollars d'optimisation fiscale à aller chercher sur cette baisse.
Hey, on comprend l'opportunisme tactique pour autant qu'elle symbole quand même. On viendrait distribuer des dividendes en finançant ces dividendes donc aux actionnaires sur les marchés tradis par les ventes de bitcoin. C'est exactement l'inverse de la thèse initiale de stratégie. Nourrir les actionnaires en bourse en vendant des bitcoins, c'est l'inverse de ce que stratégie prône, a priori.
Oui, mais Claire. Quelque part, ils s'adaptent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas racheter des bitcoins prochainement. Hein. D'ailleurs, il y a eu des annonces sur le fait que les rachats de bitcoins allaient pouvoir potentiellement reprendre. Donc, je ne pense pas que ça remette en cause la place qu'a le bitcoin dans la stratégie, justement. Ce qui est étonnant, quand on regarde aussi un peu les résultats, c'est qu'on voit que le chiffre d'affaires lié à l'activité logicielle d'origine hein, de stratégie, finalement, cette activité continue et ce chiffre d'affaires augmente. Et donc, ça crée amener une forme aussi de distorsion et peut-être un manque de clarté aussi dans ce qu'est stratégie aujourd'hui, puisque aujourd'hui tout le monde parle de stratégie quand on parle de Bitcoin, mais c'est vrai que stratégie a aussi une activité qui est presque vue comme une activité annexe désormais, mais qui continue d'exister. Et pour les investisseurs, c'est finalement pas très clair aujourd'hui de savoir si stratégie est une sorte d'ETF Bitcoin déguisé ou si stratégie c'est aussi une activité de conseil logiciel. Mmh. Et finalement, qu'est-ce qui va rapporter de la rentabilité à long terme entre ces deux activités? Tout le monde mise sur Bitcoin aujourd'hui, mais donc que fait stratégie de cette activité restante?
Oui. On disait tout à l'heure, si Bitcoin était une entreprise, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce serait sans doute stratégie, parce que stratégie a les plus grandes réserves de Bitcoin. Peut-être qu'à l'avenir, on répondra, si Bitcoin était une entreprise, peut-être qu'on répondra que ce serait une banque. Il se trouve que Morgan Stanley fait un très très gros câlin au Bitcoin, là. Morgan Stanley, Claire, envisage d'inscrire le Bitcoin, c'est tout un symbole quand même, une grande banque américaine, l'inscrire à son bilan.
Oui, alors vous dites, Guillaume, c'est tout un symbole, mais en réalité, ça s'inscrit dans une tendance de fond depuis 2 ans, et je pense que plus grand monde n'est surpris aujourd'hui parmi les téléspectateurs quand on parle d'une grande banque qui fait une énième annonce sur Bitcoin. Alors, ce qui est peut-être plus surprenant pour nous, Européens, c'est que finalement, les banques européennes, aujourd'hui, elles travaillent quand même rarement sur Bitcoin. Elles vont plutôt communiquer sur des stablecoins, sur de la tokenisation, sur éventuellement la création d'un service d'exchange, etc. Mais elles vont rarement dire, elles vont rarement faire une annonce tonitruante sur Bitcoin. Alors qu'aux États-Unis, on voit bien que le discours est plus libéré, qu'il y a moins de risques en termes de communication, et donc une banque comme Morgan Stanley peut faire ce type d'annonce et assumer aussi de travailler directement sur Bitcoin. C'est mieux vu qu'en Europe.
L'hybridation, donc, on la voit tous les jours, c'est vrai, elle fait qu'accélérer, et on a désormais des chiffres, hein, on bat des records de tokenisation d'ailleurs sur les actifs du monde réel. C'est normal, on parle de zéro, donc forcément on touche des records à chaque fois, mais là on a des chiffres un peu plus précis en l'occurrence, Owen.
Tout à fait, c'est 260% de croissance depuis 2025. C'est complètement dingue. Alors, c'est principalement porté par des bons du Trésor américain tokenisés et des métaux tokenisés, notamment l'or. Mais c'est assez dingue de voir que sur à peu près tous les segments, on va battre des records. Et comme tu le précises ici, il y a une réalité, c'est comme on part de zéro, naturellement, on va systématiquement repousser de nouveaux records. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette accélération de croissance. On se rend compte que le top départ a été lancé il y a maintenant quelques années, mais cette accélération continue de prendre de l'ampleur et de la célérité depuis début 2025, puisque c'est notamment BlackRock qui porte la plupart de ces accélérations avec les produits qu'il tokenise et qu'il propose sur le marché. On en a parlé il y a quelques semaines sur ce plateau. BlackRock a proposé l'un de ses fonds directement disponible sur Uniswap. Donc c'était quand même dingue, même pour... Il faut quand même être un investisseur certifié, mais ça permet d'aller directement sur un échangeur décentralisé pour prendre des parts d'investissement d'un fonds. C'est quand même assez dingue de se dire qu'il suffit de connecter sa Ledger à son ordinateur dans un protocole pour pouvoir acheter directement et s'exposer à certains fonds américains. Donc la tendance qui est en train d'être prise est copiée par d'autres établissements financiers, par d'autres fonds d'investissement qui voient, comme très souvent BlackRock et d'autres structures, ouvrir la marche. Et une fois qu'il y a moins de risques, tout le monde, notamment les concurrents, se lancent et investissent également ces technologies pour tokeniser et pour distribuer sur un nouveau support technologique, la blockchain, leurs propres produits.
Oui, il y a les éclaireurs, et puis une fois que le chemin est éclairé, là tout le monde suit, Claire. C'est ça la tokenisation en cours.
C'est vrai, mais en l'occurrence, les éclaireurs, ça va surtout être les stablecoins, parce que Owen le dit, la croissance est complètement folle sur ce qu'on appelle les RWA, donc les actifs du monde réel. Mais quand on regarde les chiffres en valeur absolue, donc ces actifs, on est passé d'une capitalisation de en gros 5 milliards en janvier 2025 à quasiment 20 milliards aujourd'hui. Donc c'est une croissance folle, mais ça reste quand même beaucoup plus faible globalement que la capitalisation globale des stablecoins qui est supérieure à 300 milliards. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Les RWA accélèrent très très fortement et c'est aussi là-dessus que vont les établissements financiers traditionnels. Mais l'éclaireur, ceux qui ouvrent la voie, c'est vraiment les stablecoins.
Oui, alors justement, en plus, les stablecoins vont pouvoir continuer d'avancer aussi parce qu'un verrou vient de sauter là, ici en France. Circle France, ça y est, vient de décrocher son agrément MiCA. C'était très attendu pour ces stablecoins, ces stablecoins dollars, mais aussi euros. Qu'est-ce que ça va changer, ça, Claire?
Circle avait déjà un agrément, dit EME, qui leur permettait d'émettre un stablecoin. En fait, il y a beaucoup d'agréments. Donc, c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour le grand public. Hein. On voit des entreprises qui ont plein d'agréments différents. Quand vous êtes un émetteur de stablecoin, vous devez avoir ce qu'on appelle un agrément EME, qui est délivré par l'ACPR. Mais cet agrément, il vous permet simplement d'émettre le stablecoin. Il vous permet pas de fournir des services sur crypto et sur stablecoin, comme par exemple de la custody ou du transfert ou de l'échange, etc. Et donc, pour fournir ces services, il faut nécessairement avoir un agrément. Et donc, cet agrément, en l'occurrence, c'est le fameux agrément MiCA qui est délivré par l'AMF. Et c'est ce que Circle vient d'obtenir. Et ça va lui permettre de pouvoir fournir ses services partout en Europe. Alors, chose intéressante, ils ont choisi la France. Donc, ils ont obtenu cet agrément en France auprès de l'AMF. Et c'est à partir de la France qu'ils vont pouvoir passeporter leur agrément partout en Europe. Et ça montre que Circle ne va pas simplement émettre du stablecoin, mais va aussi fournir une plateforme financière un peu plus large avec des services sur cryptoactifs et particulièrement sur stablecoin.
Ça fait plaisir, hein, Owen, parce que depuis deux ans, on n'entend parler que des États-Unis, évidemment, au cœur de l'actualité crypto, mais la France, malgré tout, continue, même si elle avance plus lentement, même si voilà, on est sur quelque chose d'un peu moins ardent qu'avec Donald Trump vis-à-vis des cryptos, mais elle continue, la France, d'être malgré tout attractive. C'est ce que montre aussi cet agrément MiCA ici en France.
Sur l'attractivité française, oui. Maintenant, il y a quelque chose qui, moi, me déçoit, c'est que là où les États-Unis ont pris la régulation dans le sens de l'innovation dans un premier temps et de la structuration ensuite, prenons l'exemple de Circle, qui est régulé en France et qui va pouvoir adresser l'Europe et qui a le plus gros stablecoin euro. Volume total dans le monde, 370 millions de ERC.
Oui.
On parle de 80 milliards de dollars sur l'USDC et le concurrent sur le dollar, c'est Tether avec 250 milliards. C'est non significatif. Ça ne représente même pas un 400e des stablecoin dollars en circulation. Donc d'un côté, oui, c'est bien. Et la France a été choisie pour représenter l'Europe, en tout cas par Circle. Et on sait qu'il va y avoir un développement. En attendant, la France et le cadre qui a été mis par l'Europe est un cadre qui est propice au développement des monnaies numériques de banque centrale. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de gros stablecoin euro qui a réussi à s'emparer de ce marché. En tout cas, dans une part qui est non significative et strictement incomparable par rapport à ce que les Américains ont réussi à construire. Et heureusement, parce que pour le coup, eux, ça leur a largement permis de financer notamment l'émission du bon du Trésor américain et le financement externe. Ce qu'aurait très bien pu faire l'Europe, la France et beaucoup de pays qui auraient besoin de ce soutien pour leur dette.
Oui, donc vous dites, oui, la France est attractive, mais elle attire quoi là? Jusqu'ici, elle attire plutôt le vide. C'est ce que vous nous dites, compte tenu des échelles, l'ampleur des échelles dont vous nous parlez entre les stablecoins euros et dollars, la France attire
tout
le vide.
Tout à fait.
Ouais, clair.
Simplement, les stablecoins dollars ont aujourd'hui tellement plus de liquidités qu'il y a une forme d'habitude qui s'est créée aussi pour les utilisateurs européens. Quand vous allez sur une plateforme d'échange, quelle qu'elle soit, généralement, les stablecoins dollars vont être plus hauts dans la liste que les stablecoins euros. Et donc, le réflexe que vous prenez, petit à petit, c'est de vous exposer au dollar. Alors, ça peut changer, évidemment, et il suffit de pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de liquidités sur les stablecoins euros. Mais c'est très important que ça arrive rapidement pour pas que cette habitude s'ancre dans les usages à la fois des particuliers et des entreprises.
Juste, le fait qu'on est Wero, là, qui arrive, ça limite un peu le potentiel des stablecoins euros ou pas? Parce que Wero, ça va faire beaucoup moins de frais, beaucoup... Enfin, c'est assez génial, ce truc, quand même. Est-ce que ça limite le potentiel, la nécessité de passer par les stablecoins? Voire par l'euro numérique, d'ailleurs, aussi, à terme.
C'est pas du tout le même usage. Je pense que ça peut être peut-être en concurrence avec les stablecoins sur certains usages très particuliers, notamment du paiement interbancaire. Mais déjà, Wero, c'est quand même principalement européen. Donc, à partir du moment où vous voulez envoyer de l'argent ailleurs sur la planète, les stablecoins sont quand même beaucoup plus interopérables. Et puis, Wero, a priori, n'est pas interopérable avec des portefeuilles sur blockchain, n'est pas utilisé par des plateformes crypto. Donc, on n'est pas sur les mêmes infrastructures. Mais je suis d'accord avec vous, Guillaume, c'est une infrastructure en plus. Et donc, ça vient complexifier et challenger encore plus le paysage des infrastructures et du monde du paiement aujourd'hui.
Et avec tout ça, le cash va-t-il disparaître? Parce qu'on parle de tout sauf de cash, là, entre nous. Il se trouve que l'Union européenne va plafonner à partir de l'an prochain les paiements en cash des entreprises, ON, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
Tout à fait, ça a été voté. L'objectif, c'est d'interdire tout simplement les paiements de plus de 10 000 euros en espèces. D'un côté, est-ce que quelqu'un est surpris de cette annonce? Est-ce que c'est surprenant que le paiement par cash, qui n'est pas traçable, qui n'est pas monitorable par les institutions, par les gouvernements et par les régulateurs, soit quelque chose qui tende vers être interdit? Je suis pas vraiment surpris de cette annonce. Après, il y a quand même un problème, c'est le fait qu'on ne considère pas l'inflation et que si 10 000 euros, c'est un plafond qui est entendable aujourd'hui, dans 5, 10 ou 15 ans, ça représentera plus que la valeur de 5 ou 6 000 euros. Donc, à un moment, il faudra revoir ces plafonds. Mais quoi qu'il en soit, ça pose de vraies questions dans un monde qui est toujours plus numérique et surtout sur les excuses. Il y a un principe de proportionnalité. L'objectif, en tout cas celui annoncé qui vient provoquer cette loi, c'est celui de lutter contre le blanchiment d'argent. Est-ce que interdire à certaines entreprises de faire des paiements et d'accepter jusqu'à 10 000 euros en cash, ça va vraiment lutter efficacement contre le blanchiment d'argent? Je ne sais pas et je ne pense pas. Maintenant, d'un autre côté, ça naturellement, ce genre de mesure vient contrôler et mettre des garde-fous et surtout donner des outils à la justice quand il y a certaines de ces transactions pour pouvoir s'y intéresser et voir s'il y a une activité illicite. Malgré tout, quand on dézoome, c'est également une restriction pour toutes les entreprises qui utilisaient tout simplement le cash. C'est également une liberté pour les utilisateurs qui venaient consommer certains services et qui venaient les acheter parce que les entreprises traitent directement avec leurs clients qui, eux, pouvaient potentiellement aimer ce genre de méthode de paiement. C'est très compliqué de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour les libertés individuelles, ça ne peut pas être bon forcément. Est-ce que c'est proportionné et utile à la lutte contre le blanchiment? Je ne serais pas capable de vous répondre, mais les crypto-monnaies, elles, notamment Bitcoin, ne sont mathématiquement et structurellement, de par le fonctionnement de la crypto, impossible à restreindre en termes de transactions. On peut payer 10 000, 50 000, 1 million d'euros sur une simple transaction si on veut. Et donc, naturellement, ça va créer un contraste entre les anciens moyens de paiement et les nouvelles solutions que proposent les cryptos aujourd'hui.
Claire.
Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a étonnée sur cette nouvelle, c'est que, donc, on parle de 10 000 euros en cash pour les professionnels. On ne pourra pas aller au-delà de cette limite. Dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne aujourd'hui, il y a déjà une limite qui est plus basse que 10 000 euros.
1 000 euros en France.
En France, c'est 1 000 euros. Dans d'autres pays, c'est 1 000 euros aussi, voire 5 000 euros. Mais dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, on est déjà très largement en dessous de cette limite. Alors, quels sont les pays où cette limite n'existe pas? J'ai regardé un peu. Il y a l'Allemagne où, au-delà de 10 000 euros, c'est pas interdit, mais il y a quand même des procédures d'identification, etc. Et puis, il y a l'Autriche. Donc, on se dit quand même, pourquoi est-ce qu'en Europe, on a pris la peine de voter une telle mesure? Alors que dans la quasi-totalité des pays, il y a déjà des limites encore plus strictes. Est-ce que c'est parce qu'on considère que dans les pays où il n'y a pas de limites plus strictes, il y a beaucoup de blanchiment? Donc on dirait qu'en Allemagne, en Autriche, il y aurait beaucoup de blanchiment à cause du cash entre professionnels. Bon, alors j'ai pas d'informations, mais voilà, c'est peut-être une piste. Ou alors, c'est vraiment un garde-fou en se disant, on sait jamais, peut-être qu'il y a un de ces pays qui pourrait rehausser cette limite et aller au-delà de 10 000 euros. Bon, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que ça interroge. Quelle est la volonté, finalement, au niveau de l'Union européenne, d'aller limiter dans tous les pays le paiement en cash entre professionnels à 10 000 euros, au moment où, justement, on commence les travaux sur un euro numérique qui a vocation peut-être à remplacer le cash dans le monde électronique.
L'UE, donc, l'an prochain, commencera à plafonner les paiements en cash des entreprises à 10 000 euros. Alors, évidemment, l'univers des cryptos, il continue de foisonner. On en parle. C'est le vendredi dans les pros des cryptos, retrouvés tout au long du week-end, en podcast, en replay, bien évidemment. Et les pays qui interdisent les cryptos, ils se retrouvent de plus en plus isolés. Hein, on le voit. C'est un peu comme vouloir empêcher l'eau de couler. Elle continuera toujours de couler. Vous lui mettez un barrage à l'eau, elle trouve toujours une façon de s'infiltrer. Bah, c'est pareil, les cryptos. Et le Maroc, jusqu'ici très strict sur l'interdiction des cryptos, bah, il est sur le point, Claire, d'assoupir sa position, finalement.
Pardon,
Guillaume. Oui, ça nous fait tous tousser. On ne s'y attendait pas du tout de la part du Maroc.
Oui, mais c'est... En fait, on entend cette nouvelle quand même depuis plusieurs années.
J'essayais de vous aider. Vous toussiez, vous me bâclez, là.
On en a déjà parlé, effectivement, plusieurs fois sur ce plateau. Moi-même, j'avais fait un déplacement au Maroc il y a quelques années. Et effectivement, dans mon souvenir, lorsque j'y avais été, c'était pour une conférence où on m'avait demandé de parler de blockchain. Mais il fallait pas que je parle de crypto, parce que justement, les cryptos n'étaient pas bien vues, les cryptos étaient interdites, mais il y avait cet espoir quand même du secteur financier marocain que la Banque centrale du Maroc finisse par assouplir un peu sa politique et de mettre en place une réglementation, justement en se basant sur l'écosystème financier traditionnel, parce que toute la difficulté des banques du Maroc à l'époque, c'est qu'elles voyaient passer des flux qui leur semblaient suspects et qu'elles voyaient bien que les Marocains en fait se retrouvaient potentiellement dans la rue pour échanger de la crypto et se faire des virements qui restaient inexpliqués. Et donc, malgré l'interdiction crypto, il y avait quand même un certain nombre de flux qui étaient soupçonnés ou identifiables avec de la crypto. Et donc, cette légalisation et ce cadre, je pense, vont permettre d'avoir au Maroc non seulement des flux légalisés, mais aussi des entreprises qui vont s'installer là-bas et qui vont faire des offres encadrées.
Et pourquoi pas, du coup, mieux contrôler et comprendre, effectivement, en rendant les choses un peu plus légales. Les cryptos qui se démocratisent. Et pourtant, alors c'est paradoxal, le patron de Coinhouse, Nicolas Louvet, il estime que le modèle des plateformes crypto est, dit-il, condamné. Pourquoi leur modèle serait-il condamné alors que les cryptos se démocratisent et comment voit-il leur avenir du coup?
En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que face à l'institutionnalisation du secteur et à l'entrée de très gros acteurs comme les banques, les plateformes crypto ne vont pas pouvoir servir tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que vous êtes typiquement CoinHouse ou n'importe quel autre concurrent de CoinHouse, vous n'allez pas pouvoir facilement gérer à la fois des particuliers qui veulent venir trader du Solana et de l'USDC sur votre plateforme et potentiellement des très gros établissements financiers qui vont vouloir se fournir chez vous.
Donc, c'est-à-dire qu'avoir à la fois un petit jeune de 18 ans et un grand institutionnel, voilà. C'est pas facile. Ouais.
Il va falloir choisir. En tout cas, ça peut pas être la même offre. Et donc, si vous voulez proposer les deux offres, ça va être deux produits complètement différents. Et ça rend un peu schizophrène quand vous êtes une plateforme d'aller proposer des produits trop différents. Donc, il va falloir choisir un modèle et soit aller sur un modèle retail pour servir les particuliers, soit aller vraiment sur du B2B pour servir les professionnels. Mais dans tous les cas, ce que Nicolas Louvet dit dans cet article, c'est que les plateformes doivent choisir et qu'elles vont devoir atteindre aussi une taille critique. Puisque comme de gros acteurs arrivent sur le marché, on peut pas rester tout petit et survivre. Donc il va falloir fusionner, il va falloir racheter ou se faire racheter. Mmh. Et c'est ce qu'on dit aussi sur ce plateau depuis un moment. Moi, je m'attends dans les mois qui viennent à une grosse phase de consolidation sur le marché français entre des plateformes d'échange, des acteurs historiques et puis de très gros établissements.
Grandir ou mourir, c'est un peu l'idée. Les grandes tech américaines, elles, ça fait longtemps qu'elles ont bien grandi. Et aujourd'hui, elles commencent à licencier à tour de bras. Ça, c'est impressionnant quand même. 10% des effectifs vont disparaître chez Microsoft, 10% chez Meta, 10% chez Amazon. C'est pas rien, 10% des effectifs licenciés. Ça, c'est les big tech. Et puis, il y a Coinbase. Coinbase annonce faire pire. Il va licencier Coinbase 14% au N de ses employés. Alors, les big tech disent qu'ils licencient, qu'elles licencient à cause de l'IA. Elle a bon dos, l'IA. Est-ce que c'est la même excuse ou en tout cas la même raison qui pousse Coinbase à licencier 14% de ses effectifs?
Alors, mais pas seulement, et pour le coup, Brian Armstrong, son CEO, ne s'en cache pas. Il explique que les marchés des crypto-monnaies suscitent un peu moins d'intérêt, que la plupart des crypto-monnaies ont perdu de la valeur, qu'ils font moins de revenus, et que naturellement, ils doivent ajuster la valeur et leurs dépenses à ce rythme et à ce que le marché et le cycle leur offrent. En attendant, il y a quand même une grosse partie de son discours sur l'intelligence artificielle. Il explique que maintenant, il y a de moins en moins de couches, que la gouvernance de l'entreprise est de plus en plus horizontale, et qu'il aime avoir des petites équipes très agiles plutôt qu'avoir de très grosses équipes. D'ailleurs, il le précise, il veut moins de 5 étages dans la hiérarchie en dessous de la direction. Il précise également le fait qu'il y a de plus en plus de toutes petites équipes, notamment des équipes avec une seule personne qui va gérer des pods, c'est-à-dire différents agents IA et être très productive en étant toute seule et donc en étant capable de prendre des décisions très rapides. C'est donc non seulement un pivot vers l'intelligence artificielle, mais lui, il le précise, c'est surtout une réduction de la voiture et une de la façon dont cette machine géante accélère et se développe en étant l'une des plus grosses boîtes crypto cotées, mais la façon dont vont fonctionner tous les organes de l'entreprise, dont ils vont communiquer ensemble et la façon dont ils réorganisent tout simplement la hiérarchie de l'entreprise.
Dans un instant, on verra comment Coinbase ouvre à Wall Street après sa publication, 14% des effectifs licenciés, Claire.
Oui, Owen a beaucoup parlé de l'IA, mais il y a un petit paragraphe également dans l'annonce de Brian Armstrong qui parle simplement du bear market et des conditions économiques et des cours qui baissent. Et c'est forcément plus difficile pour une plateforme comme Coinbase de générer du chiffre d'affaires. Donc l'IA est un prétexte beaucoup plus positif pour réduire les effectifs, mais il y a aussi la conjoncture économique.
Ouais, et la publication, a priori, d'hier soir de Coinbase, pas vraiment du goût des marchés. Le titre est attendu en net repli à Wall Street, donc à suivre l'ouverture des marchés américains dans un instant. Owen, on termine avec cette chance qui sourit aux audacieux. Miner des bitcoins, pas facile hein, désormais pour les particuliers, sauf pour ceux qui osent. Hein, 100% des gagnants ont leur chance quand même. Mais là, c'est le cas d'un individuel, d'un particulier qui a réussi à lui tout seul, depuis chez lui, sur son canapé, à miner un bloc de bitcoin. Ça lui a rapporté 240 000 dollars. Facile à faire?
Facile, non. Avec la machine qu'il utilisait, il avait à peu près une chance sur 1 million de taper son bloc ce jour-là. En l'occurrence, c'est quelque chose de très sain pour le Bitcoin lui-même, parce qu'avoir des gens qui minent seuls dans leur coin, il n'y a rien de mieux pour la décentralisation du réseau. Ça arrive assez fréquemment quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent et qui tentent la chance dans leur coin. Maintenant, de là à ce qu'il y en ait autant et que ce soit souvent, non, ça reste quand même occasionnel. Mais il y a bel et bien une personne qui, dans son coin, en utilisant une poule et en ne partageant pas les récompenses avec d'autres mineurs, en étant vraiment seul, a réussi à miner un bloc, c'est-à-dire à le constituer, à le proposer et à être le premier mineur à finalement résoudre cette équation qui lui permet de constituer le bloc. Il a donc reçu ce qui représente un peu plus de 240 000 dollars en validant lui-même un bloc de transaction et en mettant à jour le réseau.
Voilà, et quand vous disiez partager un pool, c'est un pool, hein, c'est masculin, P2OL. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Owen Simonin, combien d'abonnés sur Hacheur?
810 000.
Pas mal, il a franchi les 800 000. Joli. Bon week-end, Owen. Merci de nous avoir accompagnés en ce 8 mai. Merci Claire d'être venue sur ce plateau. Un jour férié en plus. Et les cryptos ne s'arrêtent jamais. Les pros des cryptos non plus. On est là à retrouver aussi tout au long du week-end en podcast et replay. Dans un instant, c'est BFM Bourse et l'ouverture à Wall Street avec Antoine qui va nous rejoindre. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.